Et mon frère et moi. Et donc pour nous, il y avait déjà eu une partie de ce début de guerre extrêmement difficile. Et l'entrevue Montoire est bien après. Il y a déjà une souffrance très grande. Et nous avons vu arriver l'armée allemande en France, cette armée, ces jeunes soldats, on pourrait dire magnifiques entre guillemets,
avec
un matériel tout à fait extraordinaire. Et l'exode avait été terrible pour les gens qui habitaient les départements du Nord. Nous avions vécu tout ça.
Et après, vous êtes remonté à Versailles.
Alors, nous sommes revenus à Versailles, et pour une vie qui va être horriblement difficile. L'occupation va être féroce. Pour la partie déjà occupée de la France, une grande monde, et pour nous, bien sûr, extrêmement dur.
Alors, Jacqueline Fleury-Marie, je vous repose ma question, oui, parce que ce moment où Pétain signe un accord avec, oui, Hitler a été vécu pour bien des Français comme une humiliation. Ah ben, votre famille, vous l'avez vécu comment?
Ah ben, pour nous, c'est inacceptable. Nous sommes séparés de mon père, mais on va savoir que lui, comme tous les militaires, il avait une certaine, qui avait fait la guerre de 14 d'ailleurs, une certaine admiration pour Pétain. Pétain était quand même quelqu'un d'assez extraordinaire pour les Français qui avaient connu la guerre de 14 surtout. Et pour lui-même, nous avons su bien après qu'il avait, c'est quelque chose qu'il n'avait pas accepté du tout. Et pour ma mère, c'était une catastrophe. Il n'y avait pas d'autre mot. Dans cette famille, c'était une catastrophe.
Vous dites qu'il y a eu un événement qui vous a bouleversé à ce moment-là. C'est la vision de la Légion des volontaires français.
Ah oui, alors ça, c'est encore un petit... Enfin, c'est quelque chose qui se passe à Versailles, dans une caserne versaillaise. Des jeunes Français venaient endosser l'uniforme allemand. Et nous nous avons vu sortir ces jeunes Français portant l'uniforme allemand, qui s'en allait donc combattre près des SS, enfin près des Hitlériens et autres, qui allaient combattre sur le front russe.
Et ça, c'était insupportable.
La seule fois où j'ai vu pleurer ma mère pendant la guerre, et Dieu sait si on aura beaucoup d'occasions, puisqu'on va être déportés toutes les deux, et c'est lorsqu'elle a vu des jeunes Français sortir de cette caserne avenue de Paris avec cet uniforme sur le dos.
C'est la seule fois qu'elle a pleuré.
J'exagère peut-être un petit peu, mais ça a été, pour elle, ça a été quelque chose d'effroyable, d'épouvantable, d'inacceptable. Inacceptable.
Visage, RCF.
Alors, Jacqueline Fleury-Marié, qu'est-ce qui vous a fait, toute jeune fille, je crois, à 17 ans,
ah ben moi, j'étais encore une élève du lycée.
Choisir la résistance.
Oui. Alors, un premier contact, ça va être un de mes professeurs, avec qui je ferai des actions ponctuelles. Et assez vite, puisque dès 41, je serai complètement dans le mouvement défense de la France, par une amie qui est versaillaise. Nous allons être un petit groupe de Versaillais, jeunes. Je suis la plus jeune, certainement, puisque j'étais encore lycéenne à l'époque, mais étudiant, voilà, c'est un petit groupe.
Vous me dites ça tranquillement aujourd'hui,
oui,
mais vous saviez à cette époque-là que c'était dangereux, que vous risquiez votre vie.
Oui, ça, on va le savoir tout le temps.
Mais quoi, c'est une sorte d'insouciance de la jeunesse, ou c'est vraiment un refus de l'invasion de la France?
C'est une famille du refus. Le titre de livre que j'avais fait pour mes petits-enfants, si vous voulez, mais pour des amis aussi, il a paru après. C'est le refus, une famille du refus.
Votre père, votre mère, votre frère et vous...
va rentrer très tôt dans la résistance, faire du renseignement. Il parle allemand comme le français. Moi, je suis né en Allemagne. Donc, tout petit, il a vécu en Allemagne, il parlait le français et l'allemand de la même manière. Et donc, il va faire du renseignement.
Et vous aussi. Donc vous choisissez d'entrer dans la résistance tout en continuant vos études.
Vous savez, il y a peut-être des gens qui auraient pu faire la résistance mais qui n'ont jamais eu de contact. L'entrée dans la résistance, moi je mets une entrée un peu entre guillemets. On a la chance, je dirais, on a la chance, c'est comme ça que je le vois moi, d'avoir un contact. Voilà. Et moi j'en ai eu deux, j'en avais eu d'abord avec mon professeur, et puis avec cet ami donc, qui était entré à Défense de la France.
Qu'est-ce que vous avez fait comme action quand vous étiez dans Défense de la France, c'est-à-dire entre 1941 et 1943 ?
Le journal était imprimé à Paris, dans différents endroits, et j'allais le chercher, nous allions à Paris, on pouvait y aller. On avait quand même des règles. Alors, aller à Paris dans le même wagon, enfin dans le même train et le même wagon, ça pouvait s'expliquer, mais nous avions des ordres de ne jamais revenir à plusieurs dans le même wagon, pour éviter des arrestations à plusieurs, évidemment. Alors, à Paris, dans différents endroits, on allait chercher ce journal clandestin. J'en ai encore, j'aurais pu vous en montrer. le ramener dans Paris, à l'époque, c'était extrêmement dangereux. Il y avait la police française, la police allemande, alors qu'on reconnaissait, parce que c'était des militaires qui avaient, je me souviens, une grande plaque sur la poitrine, enfin bon, on les repérait. Mais pour nous, ce qui était le plus dangereux, c'était la Gestapo. Or, il y en avait dans les gares, il y en avait dans les rues, il y en avait dans le métro, il y en avait dans les gares surtout, beaucoup.
Et où est-ce que vous cachiez ces journaux quand vous les transportiez ?
Alors, dans mon, je dirais, j'appelle un cartable, c'est pas un cartable, un petit truc d'étudiant, enfin d'élève, ou un petit sac qu'on peut avoir pour aller à un pique-nique, si vous voulez. Et puis, on avait, moi j'avais encore l'air d'une gamine à l'époque, vous savez, il fallait surtout avoir l'air le plus innocent possible. Mmh. Et alors, on transportait ça dans le métro, dans les trains, et à un certain moment, il va y avoir des alertes. Et les métros ne marchent plus. Tous les gares de métro ne sont pas en activité, si j'ose dire. Donc on fait beaucoup de trajets. Et moi, il m'est arrivé de faire dans les tunnels de métro, de parcourir les tunnels de métro pour rejoindre, par exemple, la gare Saint-Lazare.
Et vous aviez peur à ce moment-là ?
Alors, on peut pas.
On s'habitue.
Personne, aucun résistant pourra dire qu'il a jamais eu peur. C'est pas vrai. Mais dire qu'on était apeuré, qu'on avait l'air, pas du tout. Pas du tout. Mais le jour où on va être arrêté, il y aura, je ne sais pas si on va en parler, il y a quelque chose, ouais. Ben voilà, ce qui nous pendait au nez, si j'ose dire, voilà, ça, ouais. C'est arrivé.
Avant de parler de cette arrestation, ah oui, Jacqueline Fleury-Marie, il y a d'autres choses, parce que vous êtes rentrée dans plusieurs groupes de la résistance, enfin, deux groupes principaux, hein, Défense de la France, et puis Mithridate, celui dans lequel était votre frère.
Mon frère était rentré depuis longtemps.
Et alors là, vous avez une activité que j'ai trouvée incroyable. Vous pouvez nous la raconter.
Ah oui, alors là, donc en juillet 43, il va y avoir beaucoup d'arrestations à Défense de la France, je pense qu'il faut le dire. Et il fallait surtout ne plus avoir de contact, évidemment, donc je suis complètement coupée de Défense de la France. J'ai plusieurs camarades de Versailles qui sont arrêtés, d'ailleurs. Plusieurs vont mourir en déportation. Et alors à ce moment-là, j'étais déjà un petit peu, on peut dire, agent de liaison de mon frère, alors là, complètement. Dans le réseau Mithridate.
Quand on dit agent de liaison, qu'est-ce que c'est ?
Agent de liaison, emmener des renseignements chez un ou chez l'autre. Moi, je vais avoir surtout à un moment, je vais chercher des lieux pour que le radio puisse émettre. Et ça, ce n'était pas évident, parce que les portes ne s'ouvraient pas facilement, c'est, on peut le dire. Donc je deviens là, je rentre vraiment, je suis membre du réseau Mithridate, qui fait des choses assez extraordinaires, parce qu'à Versailles, on ne l'a jamais beaucoup raconté, mais il y avait les plans du mur de l'Atlantique qui se trouvaient dans, à l'époque, le château de la Mée, maintenant c'est une clinique, une jolie propriété versaillaise, que les Allemands occupaient, évidemment. Tout ce qui était bien était occupé par l'armée allemande, c'est évident, avec le drapeau accrocamé souvent sur les toits. Et là, donc, mon frère subtilisait certains plans, et nous étions quelques jeunes filles, les recopier dans une arrière-boutique versaillaise. La boutique en question existe toujours, elle n'est plus un petit restaurant, je ne sais plus ce qu'elle est maintenant.
Et c'est incroyable, c'était les plans du mur de l'Atlantique, ce mur que les Allemands avaient construit pour arrêter le débarquement.
Tout le long de la côte française, notamment les ports, etc.
Et vous avez décalqué tout ça.
Justement, comme j'étais beaucoup dans les établissements, je disais toujours aux enfants que je rêve de ce qu'ils ont maintenant pour, c'est vrai, pas recopier, mais reproduire.
Scanner ou photographier.
Alors nous,
facilement.
C'était du papier calque. Ouais. C'était un travail difficile. Hein.
Jacqueline Fleury-Marie, vous insistez dans votre livre à plusieurs moments sur quelque chose d'assez important qu'on ne sait pas assez ou qu'on ne dit pas assez, c'est la solidarité des Français pendant cette période-là. Tout le monde n'était pas pétiniste, vous le dites très clairement, tous les Français n'étaient pas pétinistes.
Non, c'est vrai.
Parce qu'il y a eu un moment où on pensait que tous les Français étaient résistants, à un autre moment on a dit que tous les Français étaient pétinistes.
Les Français essayaient de survivre. Moi, je parle d'abord des départements occupés. On va parler après de la France qui va être complètement occupée, évidemment. Mais là, même pendant cette période-là, d'abord, la vie va être très difficile. On n'a presque plus de nourriture. Nos mères font des queues extravagantes pour avoir pas grand-chose. On n'a plus pratiquement de chauffage. On ne peut plus s'habiller. Enfin, la vie est vraiment très, très, très dure. Et comment on survit ? Il y a cette solidarité un peu entre les habitants, hein, notamment les gens de la campagne, et qui ont quand même plus de possibilités de survie et qui aident un peu les gens de la ville. C'est bien rare de ne pas avoir un parent qui peut vous envoyer un petit peu de nourriture ou des amis simplement.
Ça, c'est pour la vie quotidienne,
oui,
je dirais.
C'est la vie quotidienne.
Mais vous parlez aussi de la solidarité pour aider et protéger ceux qui étaient dans la résistance, et notamment votre frère et bien
vos confrères. Ma mère, notamment, qui a accueilli chez elle des jeunes qui étaient recherchés par la Gestapo. Et là, il y avait non seulement le fait de les protéger dans un cocon, enfin dans un foyer, mais il fallait les nourrir. Et nous avions que des tickets d'alimentation. Et je disais beaucoup aux jeunes élèves que je rencontre, vous pèserez 5 grammes de pain, vous verrez ce que c'est. Et 5 grammes de pain, il fallait presque les partager. C'est une image, hein, mais tout était comme ça.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers des paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs, à la balle ou au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite.
Jacqueline Fleury-Marié, le 29 juin 1944, la Gestapo vient vous arrêter.
Il y a d'abord le 3 février 1944, alors que nous avions un jeune d'ailleurs qui était caché à la maison, la Gestapo arrive à l'appartement. Mon frère n'est pas là, ma mère réussit à le prévenir. Ça, c'est important à dire, parce qu'il va devenir un clandestin, donc il va, bien sûr, il ne rentre pas dans l'appartement familial. Et nous allons voir les Allemands fouiller l'appartement de fond en comble. Alors ça vaut tous les déménagements de la terre. Et nous ne serons pas arrêtés tout de suite, nous serons arrêtés plus tard.
Et ils ne vous ont pas arrêté ce jour-là, ils vous ont arrêté le 29 juin.
Voilà, oui.
Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, quand la Gestapo vous emmène?
Un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Depuis longtemps, on travaille dans la résistance, on travaille avec un entre guillemets aussi. Et voilà, ce qu'on a un petit peu. On a souvent pensé que ça allait nous arriver. Moi, je sais que même dans Paris, hein, on les voyait partout. Et même à Versailles, il y en avait pas mal. Et voilà.
Mais on accepte cette fatalité, on se dit, ça y est, je suis arrêté.
Tu es arrêté, mes parents sont arrêtés.
Tout le monde est arrêté, sauf votre frère.
Oui. Ouais.
Mais je veux dire, ça vous prend aux tripes quand on vous arrête?
Oui.
C'est une peur profonde ou c'est une...
C'est très curieux, je ne me souviens pas. C'est une peur, une anxiété de ce qui allait nous arriver, bien sûr. On avait déjà eu des échos, on avait des camarades ici qui avaient été arrêtés. On avait su un peu, on savait... assez vaguement ce qui se passait dans les mains de la Gestapo, mais vous savez, tant qu'on n'y était pas passé, on ne sait pas exactement. C'est quand même pas des choses qui étaient écrites dans les journaux, hein. C'était des choses, des on-dit surtout, beaucoup, ou des camarades qui disparaissaient tout d'un coup, parce que voilà, c'est ça qu'on savait, c'est tout.
Jacqueline Fleury-Marié, on vous emmène dans la prison de Fresnes, et là vous êtes placée au secret. Vous êtes là dans votre cellule, toute seule, et puis bien sûr, il y a les interrogatoires.
Les interrogatoires, en principe à Paris, on nous emmène à Paris. Je n'ai jamais très bien su où j'avais été interrogée, peut-être rue des Saussées, mais il y avait beaucoup d'autres endroits. Et dans les mains de la Gestapo, donc avec des interrogatoires difficiles.
Qu'est-ce qu'on vous faisait à ce moment-là?
Moi, je suis passée à la baignoire. Alors, on vous plongeait dans une baignoire pleine d'eau, qui était souvent d'ailleurs, qui avait déjà servi au même drame. Et jusqu'à ce que vous perdiez connaissance, on vous remettait en vie, si j'ose dire, et on recommençait les interrogatoires, etc. Et puis alors les coups, ça évidemment depuis le moment de l'arrestation. Et puis on vous ramenait à Fresnes, dans votre cellule. Voilà.
Et on vous laissait là quelques jours et ça recommençait?
Et ça recommençait. Voilà.
Qu'est-ce qui vous faisait tenir à ce moment-là?
C'est très difficile. moi, j'avais vraiment un mépris total pour les Allemands, quels qu'ils soient. Autant les bonnes femmes qui nous gardaient dans la prison, autant que les types de la Gestapo. D'ailleurs, j'ai eu la visite d'un prêtre allemand qui était, je crois, un grand homme.
Mais le père Stock, je crois.
Le père Stock, que j'ai vu arriver dans la cellule, mais il était en militaire et il m'a fait peur.
Je n'avais pas voulu lui parler, alors que c'est quelqu'un qui aidait beaucoup les prisonniers.
Il m'a apporté des nouvelles, notamment me dire que ma mère n'allait pas trop mal, enfin voilà, des choses comme ça. Mais le voir, c'était rien que sa présence. Moi, je n'ai pas beaucoup apprécié. C'est maintenant, bien sûr, avec le temps, on va dire, c'est bizarre.
Mais vous voulez me dire que cette haine...
C'était un Allemand.
Cette haine des Allemands vous faisait tenir et vous ne vouliez pas céder. C'était une forme de résistance pour vous, de ne pas céder à la torture.
J'ai compris que lui ne venait pas pour me... comment on disait, me torturer, enfin m'ennuyer, mais au contraire, dans un sens. Mais c'était un Allemand.
Non, mais quand on vous torturait, qu'est-ce qui vous faisait tenir et ne pas parler et ne rien dire?
Quoi? Je ne sais pas, une certaine force. Il y avait beaucoup d'interrogations sur mon frère. De toute façon, on ne savait pas du tout ce qu'il était devenu, donc c'est tout. Et puis, surtout, ne pas amener quelque chose qui aurait pu nuire à d'autres, et notamment la famille. Enfin, moi, on ne savait rien des uns et des autres, donc c'était important, ça, de rester dans le silence vis-à-vis de la famille. Il y a ça.
Vous écrivez dans votre livre « Ne pas pleurer devant nos bourreaux
». Ça...
C'est notre manière de prolonger la résistance.
Oui, oui, et ça a été tout le temps, même au camp.
Vous avez appris à ne pas pleurer, jamais devant...
Jamais.
Ni dans la prison, ni dans le camp.
Et surtout pas devant ma mère, pour qu'elle soit encore plus chagrinée, si j'ose dire.
De la prison de Fresnes, le 15 août 1944.
Oui, le convoi du 15 août, le fameux convoi du 15 août.
C'est terrible, c'était à quelques jours
Il y avait eu le débarquement,
la libération de Paris.
Il y avait eu les combats, enfin il y avait beaucoup de choses.
C'était quoi le dernier convoi qui est parti?
Ah non, il y en a eu d'autres derrière, mais c'est un des derniers de Paris, de la région parisienne. Mais sans ça, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y en a eu jusqu'au mois de novembre.
Et là, le voyage horrible, vous êtes dans les wagons.
Parqué, à peu près, on n'a jamais su le chiffre exact, mais autour de 100 femmes, alors de tous âges. Moi, j'ai eu une grande chance, je crois que je peux le dire, c'est que nous étions dans ce convoi, tout au moins, moi je parle des femmes, je parle de ce que j'ai vécu.
Les femmes étaient d'un côté, les hommes de l'autre.
Oui, oui. Grande différence, je crois, avec les convois de juifs, qui sont souvent partis en famille, les enfants avec les parents, etc. Nous, les femmes et hommes, nous avons toujours été séparés. Et là, donc, on peut peut-être imaginer, c'est difficile quand on ne l'a pas vécu, nous ne pouvons pas nous asseoir tous ensemble. Pour beaucoup, nous sommes passés dans les mains de la Gestapo. Nous sommes très marqués. L'une d'entre nous a été écartelée. Nous lui avons fait une place un peu plus importante pour qu'elle ne soit pas piétinée. Il y a des femmes âgées, il y a les femmes qui sont blessées, il y a les gémissements, il y a les pleurs. Je ne sais pas si on peut imaginer ça.
Et ça pendant combien de jours?
7 jours.
7 jours et 7 nuits de voyage.
Et l'arrivée, voilà, le train, enfin, il y aura des péripéties extraordinaires.
Il y a un passage.
Nanteuil-Saint-Cy.
Magnifique et terrible à un moment, le train s'arrête, un silence se pose, et là vous entendez un chant.
Oui, on a l'impression qu'on va mourir, il n'y a plus d'air, on est enfermé, on saura après que c'est dans un tunnel, et... On est très anxieux, on a l'impression qu'ils vont nous tuer, là, qu'ils vont nous laisser mourir asphyxiés. Et l'une de mes compagnes va chanter l'Ave Maria de
Schubert.
Et là, je pense que, croyante ou pas croyante, c'est vraiment un silence, mais un silence pesant. C'est quelque chose aussi que l'on ne peut pas transmettre, c'est pas possible. Mais c'est quelque chose dont je me souviendrai jusqu'à mes derniers jours.
Steve.
Jacqueline Fleury-Marier, l'arrivée à Ravensbrück, l'arrivée dans le camp, vous déportez après 7 jours de voyage. Oui, vos premières impressions?
Il y a d'abord une marche entre la descente du train jusqu'au camp, il y a à peu près plus de 6 kilomètres.
Vous arriviez encore
dans
à marcher?
Dans l'état de où nous sommes, je pense, c'est une espèce d'état second. Je ne sais pas comment on arrive à marcher en colonne. On traverse une petite bourgade, qui on saura après qui est Fürstenberg, une petite ville, disons. Et à quelques kilomètres, nous allons pénétrer dans quelque chose d'immense. C'est la place d'appel du camp. On va savoir que nous sommes à Ravensbrück. C'est un grand camp de femmes qui se trouve à peu près à, pas tout à fait 100 kilomètres au nord de Berlin, pas très loin de la mer Baltique. Et là, c'est la découverte de ce, je crois que, tout déporté qui a pénétré un jour dans un camp, on n'a jamais pu oublier. Je pense que c'est pas possible. Non.
Quelles sont vos premières images, vos premiers souvenirs qui restent gravés là, 75 ans après?
C'est un ensemble de femmes épuisées, mourant de soif, alors que nous sommes là un peu dans l'attente. L'une d'entre nous qui parle, nous mourons de soif. Hein, vraiment, la soif, c'est terrible.
Pire que la faim, dites-vous.
Pour moi, c'est pire que la faim. La soif, dès qu'on boit un peu, je crois que ça, même la faim est un peu comblée. Et là, l'une de nous donc, s'adresse... Nous sommes toujours, bien sûr, encadrés soldats allemands, armés, hein, depuis notre départ, depuis Fresnes, depuis... Voilà. Et là, nous avons découvert aussi les officierines, donc les femmes qui vont nous garder, qui sont des femmes soldats. Et là, nous nous affalons par terre. Quelques-unes ont des petits... Moi, j'ai pas de bagages, j'ai un livre. Mais j'ai des camarades qui sont restés longtemps en prison, qui ont un petit bagage, disons. Et là, l'une d'entre nous s'adresse à un SS et lui demande à boire. Et là, je sais pas si vous voulez que je vous raconte.
Oui, cette histoire terrible.
On va arriver, deux êtres. On regarde un peu, comme pour nous, sont des fantômes qui ont une espèce de robe sale, rayée, qui sont tendues, qui traînent un très grand tuyau d'arrosage comme il peut y avoir peut-être dans le parc de Versailles. Hein, et toutes, mourant de soif, nous sommes dit, nous allons boire, 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 boire. On n'en pense plus qu'à ça. Hein. Et là, nous allons voir ces malheureuses arroser la partie de cette grande place où nous ne sommes pas. Et aucune de nous ne recevra même une cuillère à moka d'eau. Même la plus marquée, je vous ai parlé de cette amie.
Donc elles ont reçu cet ordre.
Et on voit cette eau couler.
De voir l'eau couler devant vous et de ne rien vous donner à vous.
Alors là, nous commençons à nous dire, mais où sommes-nous, hein, où sommes-nous? Et au même moment, on pénètre sur cette place d'appel des êtres que l'on regarde aussi avec un certain étonnement. Mais étonnement... Ils nous marquent beaucoup d'ailleurs, et certaines d'entre elles étaient des Françaises. Ils nous ont crié, si vous avez un petit peu de nourriture, jetez-nous ce que vous avez, parce que vous savez, dans peu de temps, vous allez nous ressembler. Et ça, on ne pouvait pas penser que nous allions être transformés en concentrationnaires, au fond, puisque c'était ça, elles étaient.
Elles étaient juste arrivées quelques temps avant vous,
peut-être pas longtemps avant nous, mais elles étaient déjà. Voilà. Ouais.
Jacqueline Fleury-Marier, au milieu de cette horreur, il y a un événement merveilleux, c'est que vous retrouvez votre mère, vous qui aviez été séparée à Fresnes.
Oui, alors moi je n'appellerais pas ça un événement merveilleux. C'est quelque chose... Nous passons aux douches, donc c'est en sortant de la baraque des douches que je vais retrouver ma mère. Et c'est à la fois quelque chose d'assez extraordinaire, mais de dramatique, parce que l'une comme l'autre, nous avions pensé que nous n'étions pas dans ce transport, que nous n'étions pas arrivés dans cet endroit. Et se retrouver dans ce lieu, c'était quelque chose d'effroyable, d'effroyable.
Mais ça vous a soutenu quand même d'être l'une avec
après,
l'autre.
Après, alors, on pourrait en reparler de ça. On m'a souvent dit, vous avez vu votre mère, c'était formidable. Mais c'est beaucoup plus difficile de voir souffrir quelqu'un qu'on aime que de subir soi-même quelque chose de très dur.
Et c'était la même chose
pour
moi,
elle. Moi, j'ai jamais pardonné aux Allemands ce qu'ils ont fait souffrir à ma mère devant moi. Jamais. Et je leur pardonnerai jamais.
C'est plus dur d'accepter ce qu'ils ont fait à votre mère.
Ce qu'ils
mère.
Ont fait à ma mère. Moi, pour moi, oui, mais pas pour elle. On ne savait pas, mais mon père a subi les mêmes choses. Et tout ça, je ne leur pardonnerai jamais.
Jamais.
Non.
Vous n'avez jamais pardonné.
Je suis désolée, mais on a beaucoup parlé du pardon. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent de pardon qui n'ont jamais rien vécu. Mmh. Alors c'est très facile. Mmh. Voilà. Et ce qui a touché ma mère et les enfants dans les camps, ça c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Il y en a d'autres qui pensent autrement.
Alors, justement, parlons de ce qui vous faisait tenir sur place. J'ai eu la chance de rencontrer Geneviève Antonios de Gaulle, que vous avez bien connue.
Qui était une de mes camarades, d'ailleurs, de défense de la France.
Et qui était à Ravensbrück avec vous. La foi l'a beaucoup aidée.
Oui.
Dans l'interview que j'ai réalisée avec elle, elle m'avait dit à quel point la prière l'a
aidée.
Bien
qu'elle a douté un jour.
Bien sûr. Mais la prière l'a soutenue. Vous, c'est pas la foi.
Non.
Vous le dites clairement dans votre...
Non, c'est pas la foi. Non, non. Alors, c'est peut-être le fait d'avoir ma mère à côté de moi, de ne pas ajouter un poids, c'est-à-dire ma présence avec tout ce qui se passait d'horrible. Il y a eu des choses assez formidables, on pourrait parler de beaucoup de choses, le partage du pain, des choses comme ça. Par exemple, au début de notre internement, nous avions très peu de nourriture, un morceau de pain pour la journée, enfin, c'était très petit. Et je me suis aperçue qu'elle gardait toujours un petit morceau de pain, c'était pour me le donner dans la journée. Alors quand elle a gardé un petit morceau de pain, j'ai gardé un morceau de pain, parce que pour elle, le pain, c'était la vie comme pour moi.
Vous preniez soin l'une de l'autre, en fait, quelque part.
Oui, on était très extrêmement proches. Elle était très proche aussi de mes jeunes camarades, très très proche. Elle avait déjà vécu, non pas aussi dur, mais elle avait déjà été en prison en Allemagne pendant la guerre de 14. C'est une figure, c'est le pivot de mon histoire. C'est le pivot de la famille. C'est vrai.
Mais alors cette solidarité, vous le vivez bien sûr avec votre mère, mais j'ai l'impression que vous... Vous l'avez vécu avec d'autres personnes.
Oui,
beaucoup de résistants disent qu'une des choses extraordinaires, je reprends ce mot, qu'ils ou elles ont vécu, c'est la fraternité dans cette situation horrible des camps.
Oui.
C'est vrai, cette fraternité.
Ça a commencé dans le wagon. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure.
Mais qu'est-ce qui faisait que certains pouvaient être dans ce geste de fraternité, de solidarité, et que d'autres sombraient, étaient dans de l'égoïsme ou de la violence?
Oui, bien sûr, il y a eu. Mais je dis toujours, à propos de ma déportation, et c'est que c'est une chance. Quand je dis ça, les gens disent, mais elle ne doit pas être très bien, cette dame, maintenant. Je ne sais pas, il y a longtemps que je dis ça. Et pourquoi cette solidarité, le fait que nous avions fait quelque chose contre l'occupant, un peu, donc sans avoir fait les mêmes choses, il y en a qui n'avaient pas fait grand-chose de plus, etc. Ça a été déjà un lien. Ça a été quelque chose qui nous a rapprochés.
Ah oui, les résistants et les résistantes qui se retrouvaient, vous parliez de ça.
Et là nous étions un groupe important, donc je pense que c'est quelque chose qui a eu cette importance, qui a eu ce fait de peut-être pouvoir tendre la main souvent. C'est une aide.
Vous étiez des combattants, en fait.
On avait été des combattants.
Vous aviez été des combattants. Et c'était plus facile à supporter qu'un déporté homosexuel ou un déporté franc-maçon.
Mais moi, je suis pas connu homosexuel, alors. Bon, ça, c'est une autre histoire.
Il y a eu des ziganes. Il y a des gens qui ont été emprisonnés, déportés.
Nous avions des gens qui avaient été arrêtés, soit par erreur, soit pas beaucoup, mais très, très peu, mais on en a connu. Et qui disaient, pourquoi je suis là, qui pleurait, enfin, c'est une image que je vous fais là, mais qui souvent, le désespoir rapide, si on peut dire, ce n'est pas le coup.
Oui.
Ça c'est sûr.
Et vous, qu'est-ce qui vous est... Je vous pose toujours cette question, parce que moi c'est quelque chose qui m'intrigue ça, qu'est-ce qui fait tenir? Quand on est dans l'horreur d'un camp de concentration, qu'est-ce qui fait que des gens comme vous ont tenu et ont survécu, et que d'autres ont baissé les bras et sont morts?
Oui, ils sont morts pour beaucoup de raisons. Il y a ça aussi, mais il y a tout, la faim, le travail, l'ambiance du camp. Il y en a qui vont mourir peut-être plus vite que d'autres. Mais pour moi, enfin, c'est cette solidarité, le fait qu'on avait pour nous. Nous avions fait ce que nous devions, c'est-à-dire combattre l'occupant, parce que la France avait besoin de cela, de ces personnes qui sont élevées contre l'occupant. C'était important. Et on a apporté beaucoup de choses, vous savez, finalement.
Mais du coup, ça vous permettait d'accepter quelque part d'être là, d'être prisonnier ?
Ah, jamais accepté. Moi, j'ai jamais accepté. Alors, j'avais ce mépris, j'avais... Comment dirais-je ? Un côté... je les plaignais.
Les Allemands ?
Oui, enfin, on pourrait dire un peu ça. Je les plaignais d'être des gens aussi épouvantables, d'avoir suivi Hitler. Parce qu'il faut dire que la masse des Allemands, a suivi Hitler, hein, faut pas l'oublier. Hein. Ah, Hitler, on a vu ça, nous, très tôt. Hein. Parce que nous habitions en Alsace. Donc
c'était
vu...
Pour vous, c'est pas une petite minorité non, d'Allemands c'est... qui sont non, devenus nazis, non, c'est la majorité des Allemands qui ont suivi.
Pour moi, je dirais pas tous les Allemands, mais... Grande partie des Allemands.
Et vous les plaignez, c'est-à-dire les ceux non, qui vous gardaient,
pas, vous voyez,
ceux
c'est
qui
peut-être vous gardent, pas le mot qu'il ouais. faudrait dire, mais
je vois ce que vous voulez dire quelque part.
Ouais. Oui, ça va dans le mot mépris, hein. Ouais. Ça va ensemble.
C'est une forme de mépris.
C'est dans le sens. Ouais. Eux aussi, je les méprisais aussi parce qu'ils avaient tous été jusque là. Je n'ai jamais vu pendant toute ma déportation une main tendue, même quand on va marcher, même vis-à-vis des enfants dans le camp.
De la part de vos gardiens
des gardiens de nos SS, etc., enfin, officierines, tout ce que vous voulez.
Jamais.
Un geste moi, j'en ai jamais vu. Il y en a peut-être qui en ont vu, ça, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai jamais vu.
Visage, Thierry Lyonnais.
Jacqueline Fleury-Marié, je reviens autour de la question de la foi. Ça m'intéresse, puisqu'il y a des déportés qui ont prié, cette prière les a soutenus. Vous vous dites, dans votre livre, « Pour moi, Dieu nous avait abandonnés ». C'est-à-dire que vous croyez en Dieu, mais que Dieu n'était pas dans les camps.
Je cherche encore. Je cherche encore où était Dieu et où il est même maintenant, dans le monde, dans certains endroits. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de changé. Mais je ne sais pas si vous avez lu, je crois que j'avais raconté à Jérôme...
Jérôme qui vous a aidé à écrire ce livre.
Le Noël.
Oui, voilà. Vous avez fait une crèche. Il y a eu une crèche magnifique, avec très peu de choses.
Pour vous, ça serait peut-être la plus laide, mais pour moi, ça a été la plus belle. Oui. Elle était tellement belle que la commandante du camp est restée. Nous, on a pensé qu'on allait être punis. Enfin, je sais pas trop. Elle est restée tellement. Je crois qu'elle n'en est pas encore revenue. Elle doit être morte, j'espère. Mais, voilà.
Mais elle n'a pas détruit la crèche.
Mais elle n'a pas, non. Ouais.
Et revenons sur cette notion. Elie Wiesel a beaucoup douté et a questionné Dieu en tant que juif autour de mais où étais-tu, si tu existes, où étais-tu à Auschwitz. Vous, qu'est-ce que vous diriez sur où étais-tu?
Moi, j'ai beaucoup cherché dans la marche de la mort.
Après, donc quand on vous a fait quitter le camp.
On va en parler peut-être, dire quelques mots à la fin. Là, ça a été vraiment quelque chose qu'on ne peut pas imaginer non plus. C'était la fin de la guerre, ils savaient qu'ils étaient vaincus, enfin que la guerre était finie pour eux.
Les Russes arrivaient d'un côté, les Américains
nous,
de l'autre.
Nous, c'était pour nous faire mourir en marchant de faim, là, de froid, de soif, de tout ce qu'on veut. Là, c'était vraiment le plus les bombardements, les mitraillages. Là, on était au milieu des derniers combats. Et là, où était Dieu? C'est une question que je cherche encore un peu.
Et est-ce que vous ne dites pas qu'il était peut-être dans ces gestes de fraternité dont vous m'avez parlé, dans cette amitié
peut-être,
entre
peut-être.
Vous.
Mais c'était pas, c'était pas mon truc, si vous voulez. Pourtant, j'ai été élevée comme catholique, j'ai fait beaucoup de scoutisme. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait un manque important. J'ai vu mourir des camarades dans de telles manières. Et les enfants dans les camps, ça c'est inoubliable. Hein. Nous avons été quatre amis, vraiment inséparables. On peut dire qu'on a partagé une cuillère à café d'eau, ou un bout de pain, ou dans les marges de la mort, un bout d'herbe. Et l'une était une maman de plusieurs ans, je crois qu'elle avait cinq enfants, si je me souviens bien. Elle était extrêmement pieuse, et elle priait beaucoup. Ça m'agaçait un peu par moments. Je lui disais, où est-ce qu'il est? Il nous a abandonnés. Dites-moi où il est. On avait déjà des discussions, même au camp. Et voilà, elle est décédée. Mais bon, on a eu, et même après, évidemment. Oui.
Jacqueline Fleury-Marié, c'est pendant cette marche de la mort où les nazis essayaient de vous faire mourir les uns à la suite des autres.
Oui, on arrive à la fin. Hein,
c'était vraiment
chose,
la fin, bien sûr. Comment vous avez fait pour vous échapper? Parce que j'imagine qu'ils devaient tirer sur tous ceux qui essayaient de s'échapper.
Alors quand on ne pouvait plus marcher, en principe, on était abattus. Hein. Alors non seulement là, on a marché sans nourriture, sans eau, on buvait l'eau des flaques d'eau. Alors moi, j'ai toujours raconté à mes enfants que je croisais dans les établissements que je savais ce que c'était que de partager un brin d'herbe. Et je leur ai expliqué pourquoi, parce que qu'ils ne pensent pas que j'étais vraiment pas bien. Parce que quand on suce un peu d'herbe, on a moins soif. C'est très simple. Et on avait le droit de rien. On n'avait même pas le droit de cueillir un brin d'herbe. Ce qu'on a fait, évidemment. Sinon, on a mangé des herbes, de tout ce qu'on pouvait ramasser le long de la route.
Et là, vous êtes échappé à un moment et vous avez été vous cacher dans une cabane.
Il y aura évidemment un moment. Quand ma mère ne pouvait plus marcher, vous savez que ma maman n'était pas très âgée, elle avait 46 ans. C'est pas une vieille femme.
Vous, 20 ans,
et quand j'en parle, on pourrait penser, c'est pas vrai du tout. Et donc, si elle ne pouvait plus avancer, c'était la mort assurée. Là, hein. Donc, avec ses deux amis, on a décidé si on avait l'opportunité de nous échapper d'une manière ou d'une autre. Mais il fallait qu'on parte toutes les quatre. Et comme moi, j'étais parmi les plus jeunes, j'étais souvent, je ne sais pas si vous avez lu, nous tirions une charrette sur laquelle étaient non seulement les paquetages des SS, mais certaines de nos malades. Et je ne savais jamais si à l'arrêt suivant, je retrouvais ma mère. Je ne savais pas ce qu'elle était devenue, absolument pas. Et là, il fallait qu'on soit toutes les quatre. Voilà. Et on a eu cette possibilité de nous cacher. Et nous allons avoir la chance d'être... c'est des prisonniers de guerre qui vont nous découvrir et nous sauver.
Mais ça, je laisse ceux qui liront votre livre Résistante découvrir tout cela. J'aimerais qu'on parle, Jacqueline Fleury, pour terminer, du retour en France. Parce qu'il y a eu encore bien des aventures. Hein. Vous avez été pris par la Croix-Rouge, vous avez été interrogé par les Américains longuement qui se méfiaient de vous.
Et les Français aussi.
Et les Français aussi qui voulaient vérifier qu'il n'y ait pas des traîtres qui se cachaient. Mais j'aimerais qu'on parle du retour. Quand on a vécu ça, c'est-à-dire la prison de Fresnes, Ravensbrück, les camps, qu'on revient en France, et puis la résistance, mais surtout ce que vous avez vécu dans les camps, est-ce que les gens qui, eux, n'avaient pas connu ça, pouvaient entendre et comprendre ce que vous aviez vécu au retour, quand vous êtes rentré en 45?
Non, je pense qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Moi, j'ai fait une petite expérience, j'étais élève à l'école de périculture, je voulais m'occuper de... Comment dirais-je, m'occuper d'enfants. Et mes camarades, j'avais eu avant, bien avant, avaient fait une petite réunion sympathique, si vous voulez, pour m'accueillir, pour me retrouver. Et j'ai eu des questions tellement qui m'ont un peu hérissé le poil quand je racontais que nous n'avions une nourriture presque qui ne nous suffisait sûrement pas pour faire les travaux qu'on faisait 2 heures par jour. Et certaines me disaient oui, mais vous aviez une espèce de messe ou je ne sais pas quoi, une cantine où vous pouviez aller acheter. Alors quand j'ai entendu ça une fois, je me suis dit mais bon, j'ai mal raconté. La deuxième fois, je me suis dit mais ils n'ont rien compris. Je crois qu'ils avaient...
Les gens en 45, ils n'imaginaient pas du tout ce qu'avait été la réalité des camps.
Certains me disaient, oui, mais nous aussi, on a beaucoup souffert, on avait des tickets, etc. Et je leur répondais, nous, on n'avait pas de tickets, mais on n'avait pas de nourriture non plus. Et c'était vrai.
Vous dites dans votre livre, l'indicible n'est pas crédible. Non. Ce que vous aviez vécu, les gens ne pouvaient pas vous croire. Pas au début, c'était ça, ils ne pouvaient pas vous croire.
C'est pas possible,
Ouais. Mais la réalité... des camps, la réalité des chambres à gaz, la réalité des fours crématoires, tout ça, les gens ne savaient pas.
On n'en a pas parlé au début. Mais nous, on est rentrés à Versailles, personne ne s'est occupé de nous.
Quand vous êtes arrivé, on vous a mis au Lutetia, à l'hôtel Lutetia.
Alors, on est arrivé à Lutetia, moi j'ai un souvenir horrible de Lutetia, mais enfin je crois que j'ai dit pourquoi. Et on vient ici, on nous donne 10 francs et un ticket de métro. Et est-ce qu'on peut s'imaginer qu'on venait d'une autre planète, nous?
Donc votre mère et vous rentriez des camps, 10 francs, un ticket de métro, et c'est tout, débrouillez-vous.
Et débrouillez-vous, vous ne savez pas si la maison est encore debout, vous ne savez pas s'il y a encore quelqu'un qui va s'occuper de vous, rien. Et il faut sortir de là.
Et Jacqueline Fleury, on est habité longtemps par les souvenirs de l'enfer qu'on a traversé?
Ah oui, tous les jours.
Encore aujourd'hui.
Tous les jours. C'est pas quelque chose forcément d'horrible, mais c'est un souvenir, c'est un visage. Et c'est souvent quelque chose dans lequel ma mère apparaît. Et je dis souvent aux enfants, vous compterez combien ça fait de jours. Tous les jours.
Et les premières années étaient plus dures qu'avec le temps qui passe?
Oui, bien sûr, ça a été difficile de revivre. Vous savez, la France avait revécu déjà depuis un an presque, et on ne nous attendait plus, sauf dans les familles, ça, évidemment. Mais nous, on a vécu ça à Versailles. Personne n'est venu voir si on était capable d'aller acheter notre pain au coin de la rue.
La solidarité que vous avez connue dans les camps, vous ne l'avez pas trouvée à Versailles en rentrant.
Je ne l'ai pas connue à Versailles. Au bout d'un moment, parce qu'il y a des amis quand même qui sont venus, mais ça n'a rien de comparable, rien du tout.
Alors vous avez eu la chance d'avoir votre père qui est rentré.
Il est rentré depuis un moment, d'ailleurs.
Il est rentré des camps. Oui. Votre frère est rentré.
Il était militaire quand on est rentré. Il faisait son service militaire.
Vous avez quand même eu de la chance, je le mets entre guillemets.
Je ne sais pas si c'est de la chance.
De revenir tous les quatre, avoir perdu de membres de votre famille.
Oui, on peut dire ça.
Vous auriez pu tous mourir.
Moi, je dis qu'on a porté ça pendant 75 ans. C'est ce que je pense maintenant encore. Vous savez, quelquefois, moi, même depuis quelque temps, quand je vois certains événements qui sont passés depuis, notamment les événements familiaux aussi, parce que ça, c'est encore autre chose, c'est très dur. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, il n'a pas été un long fleuve tranquille après. Et ça, on le porte depuis 75 ans. Et quelquefois, je me dis, j'aurais préféré mourir le premier jour où j'ai pénétré au camp, dans le camp.
On parle parfois de la culpabilité de ceux qui sont revenus.
Moi, je n'ai pas de culpabilité. Je n'ai rien fait pour revenir. Rien du tout.
Non, mais je veux dire, la culpabilité d'être vivant. J'ai entendu parler de ça. Il y a les survivants des camps qui s'envolent quelque part d'en être sortis. Vous n'avez pas ressenti ça.
Non, je n'ai pas cette culpabilité. Je n'ai rien fait pour revenir. Il fallait qu'il y en ait. Vous savez, il fallait qu'il y en ait qui reviennent, ne serait-ce que pour dire. On a des camarades qui sont morts, qui nous disent. Il faut tenir, il faut qu'il y en ait qui rentrent. Ça, moi, je l'ai entendu.
Je crois que sur 8000 Françaises qui ont été déportées à Ravensbrück...
Oui, on ne sait même pas le nombre exact.
Autour de 10 000 qui sont partis, 2000 sont revenus.
Il y a eu toutes celles qui ont été dans les prisons, dans les forteresses. On n'en parle pas non plus de celles-là. Il y en a qui ont fui. Moi, j'ai des camarades qui ont passé 2 ans et demi en cellule toutes seules, dans les forteresses. Ça, on n'en parle pas. Parce qu'elles avaient fait de la résistance.
Vous trouvez qu'on ne parle pas assez de toutes ces femmes qui ont fait de la résistance?
Heureusement qu'il y a eu les femmes dans la résistance, parce qu'elles n'auraient pas été ce qu'elles ont été. Ça, moi, je peux l'affirmer. Hein. Je peux donner des tas d'exemples, parce que j'en ai des exemples de camarades. Hein.
C'est pour ça qu'à votre retour, Jacqueline Fleury, vous vous êtes engagée fortement dans l'ADIR, l'Association nationale des anciennes déportées et internées de la résistance, avec Geneviève Antonios de Gaulle, Germaine Tillon et beaucoup d'autres. C'est pour ça, c'est pour dire n'oublions pas.
D'abord, on a eu un besoin d'être toujours un peu réunis. Ça, c'est, je crois que mes camarades vous l'auraient dit, peut-être, Geneviève vous l'a peut-être dit, je ne sais pas. Et puis, il y a eu le concours de la résistance et déportation. Moi, je suis la seule qui reste de ceux qui ont créé ce concours. Et pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'en avais assez d'entendre des gens parler de ce qu'ils n'avaient pas vécu, n'importe comment, et pas bien. Et donc, nous étions encore quelques témoins, justement, à être entrés, avec une chance, puisque vous me dites que c'est une chance. Et donc, cette chance, il fallait s'en servir comme ça.
Comment vous réagissez, Jacqueline Fleury, Marie, quand des gens... Il n'y en a plus beaucoup, heureusement, mais il y en a encore trop. Ose dire que ça n'a pas vraiment existé, les camps, les chambres à gaz, les négationnistes,
négationnistes. Oui, je connais tout ça aussi.
Comment vous réagissez?
C'est presque inexplicable, parce que maintenant, quand même, il y a eu des preuves, il y a eu beaucoup de choses, quand même. Non seulement il y a eu les témoignages, mais... Alors, moi, je dirais que... Je vais être très trivial, ce sont des imbéciles, qui seront imbéciles jusqu'à leur fin de vie. Ou alors peut-être des descendants de gens qui ont un peu, comment dirais-je, travaillé avec l'allemand, ou étaient très, très allemands. Il y a eu ça aussi, il y a ça aussi, il faut y penser. Il y a des descendants, des gens qui ont collaboré, ça existait. Alors, je sais pas. Enfin, pour moi...
Ça vous met pas en colère, vous, qui aviez été dans les camps?
Ah si, ça met... Mais je suis toujours en colère. Il y a tellement de choses qui me mettent en colère, même maintenant.
Vous allez souvent témoigner dans des écoles...
Depuis 60 ans.
Oui, c'est pas nouveau. Vous témoignez devant des jeunes. Pourquoi ce besoin de témoigner devant des jeunes?
Pour apporter la vérité, déjà. Pour... leur dire qu'il est important de garder sa propre, comment dire, le choix de quelque chose dans sa vie, et d'essayer que ça soit quelque chose d'intelligent, hein, quand même, parce que malheureusement on peut pas toujours, mais ne pas suivre non plus certaines voies VOX qui vous entraînent vers des choses néfastes. C'est pas toujours quand même le drame qu'a vécu la France, évidemment. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose.
Vous pensez que ce serait possible qu'une telle horreur, que le nazisme, revienne? dans le monde d'aujourd'hui?
Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas des choses qui se passent qui ressemblent beaucoup à ça? Ou qui se sont passées il n'y a pas longtemps? Ceux qui apprennent à des enfants de 10 ans à couper des têtes dans certains endroits, est-ce que ça rejoint pas un peu?
Daesh, bien sûr.
Et que, moi, je voudrais savoir pourquoi certains qui pourraient justement, qui auraient pu s'élever contre ça d'une manière très importante pour avoir un poids, ne l'ont pas fait. Ça, c'est souvent des... Enfin, j'ai eu des questions. Je vous donne un exemple, il y en aurait beaucoup d'autres. Les enfants qui sont morts de faim, il n'y a pas si longtemps, en Afrique, je ne sais plus où. Moi, je me souviens, je m'étais élevée contre ça, on a laissé mourir. Et tout le monde le sait. Et en plus, tout le monde le savait, parce que nous, ce que nous avons vécu, il y a peu de gens qui le savaient quand même. C'était pas au vu de tout le monde, il n'y avait pas de télé. Et même, même par parole, ça ne se disait pas beaucoup. Hein?
Vous n'aimez pas, je sais, l'expression « devoir de mémoire ».
Non, je n'aime pas le mot « devoir ».
Pourquoi ?
Mais nous sommes les seuls témoins, non seulement témoins et acteurs. C'est nous qui avons un devoir. Et d'ailleurs, quand nos camarades nous disaient, justement, essayez de durer, de rapporter si vous pouvez. Mais alors maintenant, tout le monde se gargarise avec ce devoir de mémoire. Il y en a qui le mettent à toutes les sauces, et n'importe comment, ils ne savent même pas pourquoi et ce qu'ils racontent. Alors moi, ça ne me plaît pas du tout.
Qu'est-ce que vous préférez comme expression à la place tout.
Vous entendez maintenant, presque tous les politiques vous parlent du devoir de mémoire. Je voudrais leur demander quel est leur devoir, à eux. Vous voyez, non, mais je m'exprime peut-être pas très bien, mais c'est difficile
si,
à dire.
C'est très clair. Je sais que vous aimez mieux dire transmission de l'histoire.
Ah oui, ça, on peut avoir écouté, lu. Il y a beaucoup, on laissera beaucoup quand même de souvenirs, les vrais, ceux qui l'ont subi notamment. Et là, il faut s'appuyer là-dessus, mais ceux qui ne savent rien, c'est pas vrai ça. C'est pas possible d'ailleurs, c'est pas possible. C'est même indigne. Donc, vous me parlez là de ça, j'y repense encore. Je trouve que c'est pas très... Non, ça me plaît pas.
Pour terminer, Jacqueline Fleury-Marié, vous avez beaucoup témoigné auprès de jeunes dans les écoles. Oui. J'irais, quel est le message essentiel que vous avez toujours voulu leur passer et que vous passerez jusqu'à votre dernier souffle?
Ah ben, il y a la solidarité. Je disais même aux plus jeunes, vous-même, avec vos camarades de classe même, leur tendre la main, aider un, ne serait-ce qu'un même dans votre classe, pourquoi pas, c'est très important, et même dans votre vie, parce que ça vous le vivrez tout au long, personne n'a pas un jour quelque chose de dramatique, enfin, ou pas trop, mais quand même, si vous êtes complètement isolé, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc l'amitié pour moi c'est plus que la foi.
C'est ce qui vous a sauvé.
Ouais, c'est ce qui m'a sauvé.
Merci beaucoup, Madame Jacqueline Fleury-Marié. C'est un grand honneur de vous avoir rencontré, un vrai plaisir. Et puis je renvoie à votre livre Résistante que vous venez de publier aux éditions Calman Lévy.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre, réalisation technique Philippe Faure.
De Radio Présence, Vivante Église, Parole d'auteur, Immersion, la conférence de la semaine, des clés pour vivre,
Présence.
Toutes ces émissions et bien d'autres encore sont disponibles sur CD. Commandez-les par courrier à Radio Présence,
4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse,
ou par email à contact@radioprésence.com.
Présence.
Présence.
L'onde positive.
Les podcasts de Radio Présence. Podcasts
de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Flashback.
Flashback.
Flashback, une chronique musicale de Michel Brun.
La symbolique des nombres est un aspect important de la musique de Bach, tout comme d'ailleurs dans d'autres arts. Il suffit de penser au fameux nombre d'or qui régit la pyramide de Khéops ou certains tableaux de Dali. Ce qui est sûr, c'est que les nombres sont très présents au XVIIIe siècle, en particulier sur le plan religieux, avec par exemple le chiffre 1, symbole de l'unité divine, le 3, symbole de la Trinité, ou le 12, celui des apôtres. Cette symbolique, aucun doute que Bach l'a parfois utilisée dans ses œuvres. Par exemple avec la trompette, qui est chez lui symbole divin, et qu'il utilise presque systématiquement par 3, la Trinité. Nul doute également que les 11 entrées fuguées, ah, normalement, depuis une chronique récente, tout le monde sait ce que c'est qu'une fugue, présentes dans la Passion selon saint Matthieu, ont une signification forte, puisqu'elles sont chantées par les apôtres qui demandent au Christ qui est coupable de sa dénonciation. Mais alors me direz-vous, pourquoi 11 et pas 12? Eh bien tout simplement parce que le 12e, Judas, sait qu'il est coupable, et donc il n'a pas besoin de le demander. Écoutons ce passage où le texte dit « Herr, bin's ich », c'est-à-dire « Seigneur, est-ce moi ?» Attention, ça va vite. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est quasiment impossible de compter ces entrées. Mais c'est normal. La symbolique revêt souvent un aspect caché, mystérieux. Mais chez Bach, les nombres apparaissent aussi pour d'autres raisons que religieuses. L'un d'entre eux revient régulièrement. C'est le 14. Pourquoi celui-là en particulier? Eh bien, c'est sa signature. En effet, si l'on attribue un nombre à chaque lettre de l'alphabet, A égale 1, B égale 2, etc., l'addition des lettres de Bach fait 14. C'est ainsi qu'il y a 14 fugues dans son œuvre intitulée « L'art de la fugue ». Et que dans la 14e, apparaît sa signature musicale. Comment ça, sa signature musicale? Pour le comprendre, il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, les notes ne s'appellent pas do, ré, mi, fa, sol, comme chez nous, mais se voient attribuer chacune une lettre. A veut dire la, B veut dire si bémol, C, do, etc. B, A, C, H fait donc si bémol, la, do, si bécard. Eh bien, cette signature musicale apparaît justement dans la 14e fugue. Aucun hasard là-dedans. On voit immédiatement les dérives que cela peut engendrer dans des esprits dérangés ou malhonnêtes. À partir du moment où l'on décide, sans règle préétablie, d'additionner, diviser, soustraire ou multiplier, il devient assez facile d'arriver au nombre que l'on aura choisi à l'avance, et ainsi de faire dire ce que l'on veut à la musique de Bach. Vous ne me croyez pas? Pourtant, en 1995 est paru un livre intitulé « Bach et le nombre », où les auteurs, avec une grande habileté, montrent par les nombres présents dans son œuvre que Bach était lié à l'ordre Rose-Croix. Cette thèse a ensuite été battue en brèche. Je suis certain que si vous additionnez le nombre de notes qu'il y a dans la Passion selon saint Matthieu et que vous le divisez par l'âge du capitaine, vous arriverez vous aussi à 14. Attention, cette Passion est écrite pour deux chœurs, deux orchestres, deux groupes de solistes et dure 3 heures. Alors, bon courage.
On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie, sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir, combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air? Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue, jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. Vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups, et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avait réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros, malgré lui qui veut. déranger, ni vous embarrasser. J'avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci. Ces mots vous sont adressés, peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie, croiser ce héros.
Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Pas de changement à la tête de la Pologne. Les résultats sont serrés, mais c'est le président sortant, Andrzej Duda, qui sort.